Alerte bio-agresseur, un podcast qui vous aide à trouver les solutions face aux maladies et ravageurs que vous rencontrez sur vos chantiers et à adopter les bonnes pratiques.
Alerte bio-agresseur, le podcast qui fait de vous un véritable expert.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce tout nouveau numéro d'Alerte Bioagresseur, votre rendez-vous mensuel pour tout savoir sur les bioagresseurs les plus actifs du moment qui peuvent parfois donner du fil à retordre même aux professionnels comme vous. Nous sommes là pour rendre vos chantiers plus faciles à gérer en vous informant sur les menaces du moment. En ce mois de février, nous allons parler de la descente des processionnaires du pin, de la redoutable pyrale du buis et des chancres qui peuvent toucher vos fruitiers. Tendez bien l'oreille et apprenez comment garder vos espaces verts en bonne santé. Barbara Dekeyser, l'experte en charge du SVP bioagresseur de l'INEP, est comme à l'habitude au rendez-vous et sera notre guide tout au long de cet épisode. Bonjour Barbara.
Bonjour Jérôme.
Tout d'abord, comment allez-vous ?
Je vais très bien, j'espère que vous allez bien aussi et je suis ravie de reprendre cette programmation de podcast avec vous.
Alors oui. Barbara, je l'évoquais en introduction. La processionnaire du pin fait partie des trois bioagresseurs que vous avez souhaité mettre en lumière dans cet épisode, car c'est le moment où les processionnaires du pin font leur grande descente. Pouvez-vous nous expliquer ce phénomène et pourquoi mérite-t-il notre attention ?
Alors, la processionnaire du pin, effectivement, elle va descendre de l'arbre et dans la démarche d'aller s'enterrer dans le sol. Donc, c'est dans la terre qu'elle se transformera en papillon. C'est ce qu'on appelle donc une descente de nymphose, donc dans le cadre de la métamorphose des lépidoptères, puisqu'elle fait partie des lépidoptères.
Très bien. Et à quoi ressemblent les processionnaires et comment pouvons-nous les repérer ?
Les processionnaires, à l'heure actuelle, sont des chenilles qui font jusqu'à 4 cm de long. Elles sont plutôt grises avec des poils blancs sur l'extérieur du corps et une ligne plus orangée sur la longueur de leur corps. Si on détaille un peu plus, mais avec le risque d'urtication, on s'aperçoit que ce sont des sortes de points de velours sur le dessus du corps qui constituent cette bande orangée. À ce stade-ci, elles sont ce qu'on appelle des stades larvaires ou L4 ou L5, c'est-à-dire des grandes chenilles. Elles ont progressivement grossi au fil de l'hiver et aujourd'hui, elles sont sur les stades qui leur permettent de pouvoir rapidement aller se transformer. Les premières processions de nymphoses sont observées en général début janvier dans les climats les plus favorables et elles vont pouvoir durer jusqu'à mi-mai pour les plus tardives.
Très bien. Quelles sont les solutions de piégeage ? On entend parler de piégeage d'interception. Comment fonctionne-t-il et comment peut-on le mettre en place de manière pratique ?
Alors, le piégeage, effectivement, c'est à l'heure actuelle la solution mise en avant et la plus efficace parce que au stade où sont les chenilles, les traitements par pulvérisation ne fonctionnent plus, que ce soit des pulvérisations par bacillus ou des pulvérisations par nématodes entomopathogènes comme Feltiae. Le piégeage d'interception, il est vraiment conçu pour bloquer cette procession de nymphose. Il s'installe sur le tronc de l'arbre, à la dimension exacte de l'arbre. Il est constitué d'un bourrelet en mousse qui va s'adapter au profil de l'écorce et une gouttière plastique qui est collée sur ce bourrelet en mousse. Associé à ça, il y a un système de descente, soit avec un tube annelé, soit avec un système plastique rectangulaire. Tout ça atterrit dans un sac qui contient de la terre. L'idée, de la terre, du terreau, un matériau relativement souple qui va permettre à la chenille de penser qu'elle est arrivée par terre et qu'elle va pouvoir s'enterrer. Pour s'enterrer, une chenille, elle n'a évidemment pas de tractopelle ou d'engin, donc elle se dandine sur des zones de matériaux souples et c'est ce qu'on lui offre dans le sac. Le sac, il doit être monté de façon la plus étanche possible, c'est-à-dire ajusté au tuyau, au système de descente et la gouttière elle-même, elle doit être la plus étanche possible sur le tronc, c'est-à-dire très bien en contact avec l'écorce. Pour avoir posé beaucoup de pièges, l'idéal c'était éventuellement en surface d'écorcer le tronc pour avoir une surface un peu plus lisse et donc éviter d'avoir des cheminements, des itinéraires bis pour les chenilles qui lui permettraient d'achever sa descente sur le tronc. Donc il faut vraiment veiller à l'étanchéité. En général, les kits qui sont vendus de pièges d'interception sont vendus avec des mastics naturels, c'est-à-dire que c'est des systèmes de papier mâché. Vous pouvez éventuellement retravailler avec des mastics synthétiques qui ont l'avantage de se mettre en place efficacement le long du bourrelet en mousse. En tout cas, il est extrêmement important de bien monter son piège d'interception, de le rendre parfaitement étanche pour que la gouttière conduise bien l'ensemble des chenilles vers le tuyau puis vers le sac et qu'il n'y ait pas une accumulation trop importante de chenilles à certains moments qui pourraient du coup arriver à s'extraire de la gouttière. Il est important de dimensionner ce piège au nombre de nids présents et donc les vendeurs de pièges d'interception pourront vous aider dans ce sens pour savoir si vous avez besoin de remettre des rehausses sur le système de gouttière classique. Je préconise de retirer ensuite les sacs parce que le sac ne contient que du terreau. Il n'y a pas de produit qui pourrait tuer la chenille lors de sa nymphose. Et comme elle trouve un matériau qui lui convient parfaitement, la plupart des chenilles qui vont s'enterrer dans le sac sont à même de devenir des papillons. Et donc, si on ne retire pas le sac, si on ne détruit pas le sac avant la naissance des papillons, c'est-à-dire avant le mois de juin, ouais. Eh bien, on va finalement créer une pouponnière synthétique, une pouponnière très efficace. Mmh. Et les papillons trouveront, soit en remontant le système de descente, soit en parvenant à s'extraire du sac, arriveront à sortir et du coup à recoloniser l'arbre qui était l'hôte initial. Donc c'est très important de retirer les sacs au bout d'un moment. La difficulté, c'est de détruire ensuite ces sacs. Alors il y a plusieurs voies. Évidemment, l'incinération est une voie privilégiée pour le particulier. La collecte des ordures ménagères, qui pour la plupart du temps en France finissent en incinération, est une option. Pour les professionnels, il faut se rapprocher des déchetteries ou des systèmes de récupération pour s'assurer qu'on n'a pas un risque de recontaminer, de voir s'échapper les papiers en cours de route et du coup d'avoir à nouveau une infestation.
Alors Barbara, le mois de février est également le mois où la pyrale du buis se manifeste. Quels sont les signes révélateurs de sa présence ?
En effet, la pyrale, elle passe l'hiver sous forme de chenille et donc sur des phases de redoux, elle est en mesure de sortir de l'abri qu'elle s'était constitué en enroulant des feuilles avec des fils de soie et d'aller manger. En général, évidemment, elle est plutôt discrète et on n'identifie pas toujours cet abri, mais on identifie les consommations. Et les consommations, elles ont lieu en journée. Et c'est vraiment d'identifier les zones d'un buis fraîchement mangé. En général, ce qui trahit la chenille, c'est la présence des crottes qui ont une forme un peu cubique, vert pâle au début, devenant plus marron en vieillissant, qui doivent alerter le jardinier. Et à partir de là, quand il y a cette détection des petites crottes au sol ou sur les feuilles inférieures, ça vaut le coup d'aller chercher pour détruire, pour écraser cette chenille dans ses premières attaques.
Très bien. Et y a-t-il des astuces pour l'identifier, la pyrale du buis, et la gérer, surtout si le temps devient plus clément ?
Eh bien, l'identifier, on doit se souvenir, la chenille de pyrale du buis est une chenille verte avec des rayures longitudinales plus foncées, on parle de couleur courgette, plus noire et blanche sur une chenille qui est globalement vert pâle avec des picots sur son corps. Et donc, il est important de bien cibler la pyrale parce que on se souvient qu'elle est capable de totalement défolier les arbustes qu'elle contamine, sur lesquels elle s'installe. Et donc, c'est très important de limiter très tôt en saison les premières attaques. D'autant qu'on note bien que c'est un insecte qui a trois générations, quelquefois quatre générations par an. Et donc, il faut très tôt limiter son expansion parce que on a des dégâts qui sont très notables sur le buis à chaque fois.
Et pour les auditeurs qui envisagent un traitement, quelles options efficaces pouvons-nous recommander ?
Le traitement au bacillus reste une option à la fois satisfaisante en termes de résultats et la moins impactante pour la biodiversité, ouais. Même si, comme tous les traitements insecticides, elle a un impact sur les autres insectes à proximité. Sur buis, on a théoriquement assez peu d'autres lépidoptères et ne pas gérer la pyrale conduirait à des dégâts très importants et quelquefois à la mort complète du végétal. Ce qui fait qu'on ne peut pas ne pas gérer ce bioagresseur. Néanmoins, la lutte mécanique est possible au stade précoce comme on l'a actuellement. Et donc, c'est toujours utile d'agir directement sur les chenilles lorsqu'elles sont encore assez peu nombreuses sur l'arbuste. Heureusement, évidemment, on a quand même une gestion par les auxiliaires et les organismes prédateurs naturels. On pourra citer du reste un rôle pour une fois bénéfique du frelon asiatique qui peut consommer la chenille de pyrale et de tous les auxiliaires de grand format qui sont en mesure de manger cette grande chenille. On a également un rôle des oiseaux comme les moineaux, les mésanges bleus, qui sont eux également des consommateurs de la chenille. Mais actuellement, moineaux et mésanges ne sont pas très friands d'insectes parce que c'est surtout au moment de la nichée qu'ils iront chercher vers cette ressource alimentaire-là.
Merci Barbara. Vous avez souhaité aussi mettre l'accent sur les fruitiers qui sont souvent victimes de chancre en hiver. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi c'est une période critique pour eux ?
L'avantage de se préoccuper du chancre en hiver, c'est qu'on voit déjà très bien le bois, puisqu'on n'a pas encore le feuillage, on n'a pas la préoccupation de risquer de malmener les fruits. Donc en fait, on peut faire une observation assez simple de l'état de nos arbres. En plus, c'est le moment où on fait une taille en général. Et donc, intégrer la lutte contre les chancres en taillant les rameaux les plus atteints est évidemment opportun à cette saison et donc est recommandé à l'heure actuelle.
Et quels sont les signes concrets que nos auditeurs doivent rechercher pour détecter les chancres sur leurs fruitiers ?
Alors un chancre, c'est un aspect assez particulier. En général, ça a commencé par une toute petite plaie et on a en premier signe une petite racornissement de l'écorce, une dépression de l'écorce sur le bois, c'est-à-dire un creux, comme si on avait une sorte de bleu sur le bois, un hématome. Mmh. Et cet hématome, il va évoluer en ulcère, si on continue le lien avec la médecine humaine. Oui. Et donc, on a l'écorce qui ne va pas parvenir à se refermer, quelquefois la plaie qui prend de l'ampleur, et donc un bourrelet d'écorce en marge de la plaie, d'écorce anormale. Et on n'a en général pas de cicatrisation. Donc l'origine des chancres, elle est double. Ça peut être lié à des champignons, ça peut être lié à des bactéries. Les bactéries à pseudomonas sont souvent liées aux évolutions chancreuses. Et en termes de champignons, c'est souvent des problèmes de néonectria ou des problèmes de corineum qui peuvent engendrer une évolution chancreuse des bois. Comme on n'a pas vraiment de moyens de lutte, évidemment, l'idéal, c'est de couper et de profiter de la période habituelle pour ces tailles de formation pour supprimer les zones infectées.
Mmh. Et Barbara, pouvez-vous nous expliquer comment la bouillie bordelaise agit comme traitement pour les chancres et à quelle période il est préférable de l'appliquer ?
La bouillie bordelaise, elle est très efficace justement sur les périodes de redémarrage de végétation et de fin de végétation. Donc elle est adaptée à l'automne et elle est adaptée en début de saison. Et comme elle a un effet bactériostatique, elle est intéressante justement pour renettoyer les végétaux qui auront été taillés, pour assainir les plaies notamment. Donc évidemment, tout ce qui est taille se fera préférentiellement avec des outils bien affilés. Et donc, c'est très important d'avoir déguisé les outils correctement et de refaire leur fil plusieurs fois dans la journée. Et évidemment, désinfecter. Désinfecter au vinaigre blanc, désinfecter à l'alcool à brûler, désinfecter avec de l'eau de Javel éventuellement. Mais on se rend compte qu'avec les chancres, évidemment, supprimer un rameau chancreux, on a forcément à proximité des organismes d'infection. Et donc, couper sans désinfecter ensuite à la bouillie bordelaise peut poser problème et peut même accentuer le problème. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et c'est pour ça que ce traitement à la bouillie est adapté. Les végétaux ciblés par les chancres, on a évidemment parlé des fruitiers parce qu'on a une taille habituelle au printemps. Ça peut être également d'autres essences comme le rosier, qui peut être fréquemment atteint par corineum. Ça peut être également le frêne, le chêne, le platane. avec des évolutions chancreuses là aussi. Donc, c'est un problème assez vaste et à chaque fois, la bouillie bordelaise peut être une très bonne solution post-taille pour réassainir le végétal. On a heureusement de nouvelles méthodes de lutte et notamment des produits, des stimulants, des défenses naturelles qui peuvent être efficaces avec, pour les entreprises, les personnes titulaires à la fois d'un certificat et les entreprises titulaires d'un agrément, ouais. La possibilité d'utiliser Bacillus subtilis, qui est une bactérie utile pour gérer les organismes plus néfastes que sont les bioagresseurs générant des chancres.
Alors Barbara, on parle effectivement des bioagresseurs de ce mois de février, mais n'y aurait-il pas un auxiliaire utile que les professionnels devraient préserver ?
Si, tout à fait. Le mois de février, c'est souvent un mois des grands nettoyages au niveau des jardins, des bêchages, quelquefois pour ceux qui continuent à le pratiquer dans les massifs, éventuellement des replantations, enfin des dernières plantations. Et le hérisson, lui, trouve souvent abri au pied des haies, sous les arbustes rampants. Et c'est important lorsque vous avez un tas de feuilles qui a l'air relativement imposant d'être vigilant quand vous allez le manipuler, de ne pas taper dedans immédiatement, de ne pas mettre un coup de bêche dedans parce que vous pourriez déranger un hérisson qui s'y protège.
Très bien Barbara, et nous voilà déjà au terme de cet épisode d'Alerte Bioagresseur. J'espère que vous avez trouvé ces informations à la fois accessibles et utiles. Maintenant, vous avez les outils pour affronter ces menaces de février dans vos espaces verts. Souvenez-vous, prévenir vaut mieux que guérir. Alors, restez vigilants et gardez un œil sur vos végétaux. Nous serons de retour en compagnie de Barbara le mois prochain, où nous vous parlerons des bioagresseurs du mois de mars. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez interroger directement votre experte Barbara Dekeyser depuis le SVP bioagresseur de l'UNEP qui est disponible sur l'application Plateforme Garden que j'aime à rappeler totalement gratuite. Ce service est réservé aux adhérents UNEP et accessible depuis la rubrique Coach de votre application. Merci cher auditeur pour votre écoute, merci à vous Barbara pour votre expertise et vos précieux conseils.
Merci Jérôme.
Nous vous donnons donc rendez-vous le mois prochain.
Ce podcast vous a été proposé par le SVP bioagresseur de l'UNEP,
les entreprises du paysage
et l'app des pros du végétal, plateforme.garden.
Plateforme.garden.
Vous rencontrez un problème de bioagresseur sur vos chantiers ?
Interrogez directement l'expert UNEP sur l'application plateforme.garden.
Ce service est réservé aux adhérents UNEP.